Ciné Club Actu.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Po et vous écoutez Ciné Club Actu. Nous sommes Carla,
Camille
et Maxime.
Et nous allons vous présenter les 5 sorties cinéma et séries du mois de mai. Mais tout d'abord, accueillons nos invités de ce mois-ci.
Bonjour.
Nous sommes avec Margot et Gloria, deux invités cette fois.
Coucou.
Gloria, qui faisait donc une émission sur la musique cette année sur Ciné Club Actu, et qui sera de retour l'année prochaine sûrement.
Exactement, avec beaucoup plus de contenu bien sûr.
Voilà, et Margot, bon, qui n'est pas à la radio, mais c'est
pas
grave.
Bah écoute, c'est une première, mais c'est très intéressant.
Voilà, on a les bras ouverts à tout le monde.
C'est ça. Voilà.
Ce n'est pas fait que pour les gens de la radio, vous pouvez venir.
Exactement, tout le monde, tous les auditeurs, elles peuvent venir.
Et du coup, voilà, bah, on va vous poser les questions un petit peu habituelles qu'on pose à chaque fois. Est-ce que vous allez souvent au cinéma, etc.
Alors moi, j'y vais très rarement. Mais c'est vrai que celui qui m'a le plus marqué que j'ai vu au cinéma, c'était Babylone. Alors là, je crois que c'était ma meilleure expérience au cinéma. Avec tout l'instrument musical et tout, c'était incroyable. J'ai adoré.
Maxime Pauvre.
Ah, j'adore Babylone. Qui est sorti début 2023.
Exact.
C'est de Damien Chazelle, donc de réalisateur de La La Land, de First Man, c'est un biopic sur Neil Armstrong avec Ryan Gosling. C'est génial. À Babylone, c'est donc l'histoire de Hollywood dans les années 20-30 avec Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva. Bon, pour l'instant, qui a fait que ce film-là, mais qui est un super acteur. Ouais.
J'espère
Pour moi, c'est la plus grande prestation de Margot Robbie, d'ailleurs. Donc, si vous êtes fan,
regardez. Mais je trouve que c'est la meilleure. Hein.
Mais
parce que franchement, le passage, il y a un des passages qui m'a marqué, le moment où elle entre sur ce bar où elle est vraiment révélée en tant qu'actrice prime.
Absolument.
Tu la vois dans son meilleur jeu d'acteur. C'est fantastique. Un jeu d'acteur dans un jeu d'acteur au cinéma.
C'est une mise en abîme.
C'est
fantastique.
C'est incroyable.
Ah, oui. C'est, honnêtement, ça émue aux larmes. Quoi.
Ah, mais d'abord, vraiment, j'ai pleuré.
D'abord parce que c'est une histoire sentimentale et c'est aussi l'histoire du cinéma. Mm. Et c'est fantastique.
En plus, il y a le reflet de la vie derrière avec ce truc de déclin qui était super, super intéressant où tu vois cette chute et en même temps cette ascension.
Absolument. Et puis une musique aussi.
Oh là là, on est d'accord
La musique de Babylone.
Mon Dieu.
Elle est fantastique.
Je me le suis enchaînée pendant un mois. Tous les jours, elle était en fond.
Non, vraiment, c'est extraordinaire, Babylone. Et d'ailleurs, c'est dommage que ça ait fait un big flop au box-office américain,
ouais.
En tout cas.
Oui, c'est vrai.
Et qui n'a eu aucun Oscar, d'ailleurs, Babylone. Ça, c'est une honte. Mais vraiment, c'est fantastique. Voilà. Ça dure 3 heures, mais... Forcez-vous.
Oh, 3 heures de magie. 3 heures de magie.
Exactement.
Et en plus, ce qui est même magnifique, c'est que je l'ai regardé en date avec le garçon avec qui je suis sortie juste après. Du coup, c'est resté en mémoire.
Ouais.
Nickel. Voilà. Allez voir Babylone.
Voilà.
Et pour toi, Margot?
Mais pour moi, c'est très rare quand je vais au cinéma. La dernière fois que j'y suis allée, c'était pour voir Barbie. Alors, écoutez, ça fait un petit moment.
Margot Robbie est toujours. Elle est là.
Mais Margot Robbie, je trouve que c'est une très très bonne actrice.
On parle d'elle chaque mois.
C'est vrai. Chaque mois, Margot Robbie.
Et en plus,
revient.
Elle a le même prénom que moi. Alors, c'est encore.
Ouais, Margot.
Écrit de la même manière.
Non.
Mais il y a 10 000 manières d'écrire aussi.
Oui. Non. Mais oui, alors après, je vais regarder plus chez moi les films
c'est bien
sur Netflix
cosy.
Ou autre. Voilà.
Mais c'est bien.
Hein. Ouais.
Il n'y a pas de mauvaise manière de regarder.
Mais bien
les
sûr.
Films.
Ouais.
Et est-ce que vous avez des films préférés ou un genre préféré que vous voudriez un peu nous présenter, etc.
Écoutez, moi j'ai un film sur Netflix que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Qui s'appelle, donc c'est une romance un peu dark, ça s'appelle Le fabricant de larmes, et ce film m'a énormément touchée, parce que c'est une romance qu'on n'a pas l'habitude de voir, et en fait là ça vient plus du garçon que de la fille, ce qui est intéressant parce que c'est souvent la fille dans les romances. Et là, ça vient du garçon, et ça, c'est tiré d'un livre, à ce que j'ai entendu dire. C'est tiré d'un livre, et vraiment, cette romance m'a énormément touchée. Au début, ça commence avec la fille qui perd ses parents, et qui va dans un orphelinat, donc c'est un film italien, pour préciser. Et elle se rend dans l'orphelinat et c'est là qu'elle va rencontrer donc le garçon en question. Et le garçon va faire tout pour se faire détester d'elle. Mais on se pose à chaque fois la question, mais pourquoi il fait ça, tout ça. Mais en fait, on va comprendre que en fait, il est amoureux d'elle et il veut pas la faire souffrir. Donc du coup, il va essayer de s'éloigner d'elle et de se faire détester par elle pour ne pas la faire souffrir. J'ai trouvé ça très touchant comme film.
Ok. Ben allez regarder Le Fabricant de Larmes, c'est ça?
Oui, c'est ça, Le Fabricant de Larmes.
Regardez ça, ils n'ont pas trop fait la publicité de ce film.
Non,
jamais,
pas du tout entendu
parler. J'en ai pas entendu parler.
C'est sorti il y a longtemps?
Alors, c'est sorti il y a un peu un mois ou deux mois.
Ah oui, c'est
récent. Oui, un mois ou deux mois. Et vraiment, non, ils n'en ont pas fait la pub. Je l'ai découvert comme ça, en cherchant. Et je l'ai mis parce que la bande-annonce m'a intéressée, donc je l'ai mis. Et vraiment, c'est une romance qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est ça qui m'a intéressée.
Ok, bah, parfait. Et toi, Gloria?
Moi, je suis plus axée sur les films d'amour ou sinon les séries qui touchent un peu avec des éléments de la vie réelle. Par exemple, toujours sur Netflix, il y avait Painkillers qui m'a énormément marquée. C'est sur la crise des opioïdes en Amérique. Et je trouve que ça reflète super bien ce truc. Ouais, parce qu'en fait, il y a un moment donné où le personnage principal, qui est le gros méchant, qui nous explique le cycle entre le désir, l'envie, qui finalement est très, permet d'accentuer le truc économique qui finalement reflète l'entièreté de la société. Et du coup, j'étais en mode, mais... Ils sont conscients qu'ils font du bénéfice de l'argent sur des personnes avec des opioïdes qui meurent. Et il y a un moment qui est très touchant où, en fait, c'est un garagiste qui a un accident et il doit être remis sur pied assez rapidement. Et en fait, là, contre la douleur, du coup, on lui prescrit... je sais plus comment il s'appelle ce médicament. C'est... Enfin bref...
Le fentanyl, non? Un truc comme ça.
Ouais, un truc comme
qui
ça
est
un
devenu...
peu.
N'importe quoi.
Mais c'est ça, en fait, un petit médicament qu'il lui prescrit pour atténuer la douleur. Donc, à chaque fois que la douleur est atténuée, en fait, ça crée une dépendance au niveau du patient. Mm. Une dépendance qui, finalement, devient une drogue parce qu'il en vient à mourir, à voler de l'argent, à détruire sa vie familiale, il perd son boulot, il perd tout. C'est terrible, en fait. Et en fait, en parallèle, ils mettent des interviews avec des petits reportages sur des personnes qui ont vraiment vécu ça dans la vie réelle. Et tu dis, mais attends, il y a des gens qui sont vraiment accros au médoc. Et en fait, ça m'a vraiment donné une autre vision du fait que, bah, ok, il y a des drogues. Parce que moi, quand tu me parles de drogue, le premier truc auquel je pense, c'est tout ce qui est la cocaïne, les joints, ce genre de choses. Mais en fait, il y a plus grave que ça. Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience d'un truc, c'est que, bah, en fait, tous ces médicaments, tous ces trucs, en fait, ils ont été vraiment créés pour une dépendance qu'on a finalement au fur et à mesure du temps.
C'est comme la morphine ou,
exactement.
Ou l'opium
tout ce
aussi.
Tout ce qu'on ingère, en fait.
Qui a créé beaucoup de problèmes déjà, l'opium.
Surtout aux États-Unis, parce que nous, en France, on a quand même une sécurité sociale. Donc, si on est malade, on va plutôt avoir tendance à aller voir un docteur et évidemment
se livrer à nous-mêmes.
Soigner,
en fait.
Oui.
Tandis que eux, ils vont plutôt prendre des médicaments pour pas avoir mal, mais donc du coup c'est de la drogue et c'est pour ça qu'il y a la grosse crise du fentanyl.
C'est ça.
L'oxycotin, voilà, c'est ça. C'est l'oxycotin. Avec ils y prenaient un petit bonhomme bleu là qu'ils mettaient partout et ah mon dieu, c'est resté dans ma tête. Vraiment, c'est un truc qui m'a marqué, que j'ai trouvé vraiment horrible sur la société et qui finalement reflète totalement le système économique un peu qui, parce que finalement la société pharmaceutique, pardon. Oui. Qui est en plus à la base de ça, et tu te dis, c'est pas très humain finalement tout ça.
Comment se faire de l'argent sur des gens malades?
Voilà, les addictions, c'est clairement ça. Hein. Mais ils se font, que ce soit le tabac, l'alcool, tout ça, ils se font de l'argent sur des gens addicts et on les blâme, les gens addicts, alors qu'ils se font l'argent derrière. Mais...
Ouais. Sinon, après, j'aime bien les autres séries d'amour et tout ça, et non, j'aime beaucoup.
Excusez-nous s'il y a des petits bruits parce que visiblement il y a des chantiers dehors. Donc si vous entendez, désolé. Voilà, c'est tout. c'est passionnant en tout cas ces films. Écoutez.
Ouais, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on va parler de The Fall Guys d'abord, qui est sorti le 1er mai. Alors ça raconte l'histoire de Cole Seaver, qui est un cascadeur hollywoodien. qui travaille pour la star de film d'action Tomb Raider. Et il sort avec une cascadeuse qui s'appelle Judy Moreno. Et en faisant une cascade, il se blesse et il abandonne sa carrière pour devenir voiturier dans un petit restaurant. Et 18 mois plus tard, il est contacté par Gail Miller, la productrice historique des films de Tomb Raider. Et elle lui dit que Judy, qui réalise son premier film, souhaite que Cole rejoigne la production à ciné. Et après son arrivée sur le plateau, Cole découvre que Judy ne lui a jamais demandé, ne l'a jamais demandé et qu'elle lui en veut toujours après la rupture. Et elle lui avoue qu'elle l'a fait venir parce que Tom, le premier rôle du film, a disparu. Et elle a besoin que Cole le retrouve avant que son absence ne soit découverte et provoque l'annulation du film. Alors, ne voulant pas que les débuts de la réalisateur de Judy soient
Il est lent le synopsis. Ça spoile beaucoup. Non, c'est pas grave.
Tout le début, c'est. Ouais. Il résume comme ça.
C'est dommage de que les gens ils spoilent comme ça le studio.
Mais ouais. Apparemment, ouais, ça s'arrête là. Donc les recherches se poursuivent. Et voilà. Et alors, dans le rôle de Cole Seaver, on retrouve Ryan Gosling. Qui est connu entre autres pour le premier gros succès, ce serait La Land quand même.
Oui.
Et aussi dans le rôle de Judy Moreno, on retrouve Emily Blunt, qu'on connaît pour Le Diable s'habille en Prada notamment.
Oui. Je sais plus, mais je sais que c'était elle, la femme d'Oppenheimer dans le film
oui.
Éponyme.
Oui, voilà.
C'est vrai. Récemment, voilà.
Voilà.
Et donc, bon, il y a quand même une sacrée tête d'affiche. Et la bande-annonce, elle me donne vraiment envie, donc n'hésitez surtout pas.
Ouais, c'est dommage, il y a eu une mauvaise promotion. Et je trouve que c'est illustré à travers le synopsis. Pareil, les bandes-annonces, il y en avait une qui durait 5 minutes. C'est trop long pour une bande-annonce.
Oui, oui.
Mais c'est dommage, parce que c'est un super film. Moi, je l'ai vu. C'est une comédie où c'est totalement loufoque. C'est la star principale d'un film d'action qui a disparu. Parce qu'il est impliqué dans une affaire de trafic de drogue, on croit au début, mais en fait non. Et du coup, c'est Ryan Gosling qui revient, du coup, qui est un peu sur son nuage, qui revient et qui doit enquêter sur ça, en même temps qu'il doit faire les cascades sur le film. Donc,
il a l'air très drôle, depuis la bande-annonce, on voit que c'est très drôle.
Il est vraiment hilarant, ce film. Je rigole pas facilement au cinéma, mais celui-là, c'est complètement loufoque, vraiment.
Ryan Gosling reste sur sa lancée des rôles un peu perché quand même.
Oui. J'ai l'impression que lui-même a l'air perché dans les interviews, ça se voit, il a l'air un peu haut, quoi. Et voilà.
C'est très dur de faire rire les gens.
Oui, justement, c'est pour ça, vraiment. C'est pour ça que là, le film, il doit durer 2h, 2h20, je sais plus, 2h par là. Honnêtement, il y a très peu de blagues qui sont pas drôles, quoi. Enfin, ouais. ça marche surtout. Moi, j'adore les moments par l'absurde.
Donc, du coup, c'est un très bon acteur parce que vraiment. Mmh. Il est bon.
Il faut le faire dans le rôle du mec qui n'a rien dans la tête.
Oui.
D'accord.
Il est parfait pour Ken. Il est parfait dans ce rôle. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce film. Voilà.
Alors, on n'en a pas parlé le mois dernier, mais ce mois-ci, il y a un nouveau film d'horreur qui sort au cinéma, Abigail. Il va sortir le 29 mai, réalisé par Matt Bettinelli-Holpin, qui a notamment réalisé pas mal de films d'horreur comme Scream 7 ou Wedding Nightmare. Abigail, c'est une partie de remake du film La fille de Dracula de 1936, donc c'est quand même un très vieux film. Abigail raconte l'histoire d'un groupe de criminels ayant kidnappé une jeune ballerine de 12 ans, et alors qu'ils sont dans un manoir isolé dans l'attente de la rançon demandée aux parents, chaque membre commence à disparaître un à un, et ils découvrent que la jeune fille de 12 ans n'a rien de normal. Déjà ça voilà.
Bien sûr les enfants quoi.
Oui bah oui.
Bien sûr.
Mais quelle bonne idée. Ouais. On retrouve au casting Alicia Weir qui joue Abigail, Melissa Barrera qui a joué dans les films Scream Nouvelle Génération, ou encore Dan Stevens qui a joué dans La Belle et la Bête de 2017 et La Nuit au Musée, le secret des pharaons. Donc voilà.
Alors moi personnellement, j'avais pas entendu parler du film.
Ouais, moi
mais je vous conseille d'aller le voir. Pourquoi ? Parce que le réalisateur, donc c'est de Wedding Nightmare, donc 2018 et Scream.
C'est des très bons films.
Ouais, Scream 5 et 6 aussi, ouais. Qui sont plus récents, qui sont trois très bons films d'horreur.
Oui oui.
Là aussi pareil, je suis pas trop film d'horreur. Mais ces trois films-là, il y a vraiment une vision derrière. C'est pas juste de l'horreur pour de l'horreur, vraiment.
Oui, c'est pas, bon, on veut faire peur, on va utiliser tous les trucs clichés.
C'est ça.
Et on va les regrouper dans un film, et voilà. Non, là, c'est travaillé, c'est...
Mm-hmm.
Ça fait du bien d'avoir des nouveaux films d'horreur qui sortent un peu de ce qu'on connaît déjà.
Oui. Et du coup, là, vu que c'est le même réalisateur, bon, bah, on peut s'attendre à un bon film.
Voilà. Oui.
La prochaine sortie du mois, c'est Furiosa, une saga Mad Max qui sort le 22 mai au cinéma. Donc 9 ans après Fury Road, la saga Mad Max est de retour en salle, cette fois avec un préquel consacré à Furiosa, donc le personnage principal de Fury Road, qui est cette fois incarné par Anya Taylor-Joy, qu'on a vu pour la dernière fois dans Dune 2. L'autre rôle principal est tenu par Chris Hemsworth, donc Thor dans le MCU. Dans un monde en déclin, la jeune Furiosa est arrachée à la Terre Verte et capturée par une horde de motards dirigée par le redoutable Démentus. Alors qu'elle tente de survivre à la désolation, à Immortan Joe et de retrouver le chemin de chez elle, Furiosa n'a qu'une seule obsession, la vengeance. Donc George Miller, le réalisateur donc des premiers Mad Max dans les années 80 et de Fury Road il y a 10 ans, est de retour à la réalisation. Il a été montré en hors compétition au Festival de Cannes, ça a été de critiques dithyrambiques. Là, pareil, il est sorti mercredi dernier, du coup, le 22 mai, en salle, pareil, critique dithyrambique. Surtout que Fury Road, dans la sphère des cinéphiles, c'est un blockbuster, c'est un des plus grands blockbusters de la décennie 2010. C'est une course effrénée de motos et de camions à travers le désert pendant 2 heures. Alors, ça a l'air assez barbant comme ça, mais je vous jure que c'est incroyable. Et ça fait 9 ans qu'on attendait la suite, mais du coup, on a un préquel. Ça a l'air fantastique aussi, voilà.
J'ai vu les images, ouais, ça me tente bien. Et puis, Anya Taylor-Joy, je trouve qu'elle incarne super bien son rôle. C'est trop bien.
Oui.
Allez voir.
Allez voir, évidemment.
Allez voir tous les films qu'on présente.
C'est vrai, oui. Et même les autres, même tous.
Même
tous,
les séries qu'on va présenter à partir de maintenant, d'ailleurs.
Oui, et là
on
je...
On fait venir des clients.
C'est vrai.
Bon, on va parler série.
Là, je vous laisse parler entre vous. Voilà, okay. À tout à l'heure.
Le vif du sujet.
Attendu depuis 2 ans par les fans, la chronique des Bridgerton saison 3 partie 1 est sortie ce 16 mai sur Netflix.
Enfin.
On y revoit la fameuse famille Bridgerton. Pourquoi je prends un accent anglais d'ailleurs ? Mais bref.
Parce que ça se passe à Londres.
Ça fait partie de la série.
Voilà.
Il nous manque juste le petit thé là pour faire notre petit time avec.
C'est ça.
Mais
avec
aussi Penelope Featherington qui va occuper une place centrale dans cette saison avec Colleen Bridgerton.
On va faire sa saison.
Alors, normalement, cette saison 3 aurait dû parler de l'histoire de Benedict Bridgerton, mais les scénaristes ont décidé depuis un petit moment d'ailleurs, de pas trop suivre l'ordre des livres de Julia Quinn. Donc dans cette saison, il y a également Francesca Bridgerton qui fait son entrée dans la société. Elle cherche un mari, enfin voilà. On vous conseille de évidemment la regarder. On y retrouve au casting Colleen Bridgerton incarné par Luke Newton. Penelope, incarnée par Nicola Coughlan, et une nouvelle actrice qui incarne Francesca Bridgerton, Anna Dodd, qui est notamment connue pour avoir joué dans Enola Holmes.
Il faudrait peut-être raconter la petite histoire derrière pourquoi ils ont changé l'actrice de Francesca, qui de base était à l'origine jouée par Ruby Strug. Alors, ceux qui ont regardé ont peut-être oublié son existence, parce que c'est vrai qu'elle est très secondaire dans
les deux
premières saisons.
Oui, on la voit pas trop dans les deux premières saisons, oui.
Alors dans la série, ils disent qu'elle joue, elle s'entraîne au piano à Bath, qui est une ville d'Angleterre à l'autre bout du pays par rapport à Londres.
Ouais.
Et en fait, ils ont changé d'actrice parce que Ruby Strug a été prise pour le premier rôle dans Lockwood & Co. Donc c'est toujours mieux de faire un premier rôle dans une série moyennement connue que d'avoir un rôle
secondaire
dans une série très connue. Donc du coup, elle avait été prise dans cette série qui n'a pas été n'a eu aucune promotion de la part de Netflix, ouais, et qui évidemment a eu le destin des trois quarts de Netflix, des séries de Netflix. Elle a été annulée. Et sauf qu'ils avaient déjà fait le casting, donc elle n'a pas pu reprendre son rôle, malheureusement. Donc voilà.
Ouais. Ouais. Si elle veut revenir dans Bridgerton, eh ben, elle va prendre quel rôle? Je sais pas si elle pourra, en vrai.
Bah, non, je pense pas.
À part si dans la prochaine saison, il y a des rôles qui se libèrent. Ben, dans tous les cas,
mais, forcément. Mais, de toute façon, elle est déjà apparue, donc...
Oui.
Ouais. Et quand même, on peut remarquer que chaque saison, ça devient mieux. Oui. Les chroniques de Bridgerton. Oui. Parce que...
Déjà, la première, bon, il y avait beaucoup de scènes explicites. Il y en a de moins en moins, mais l'histoire est de plus en plus intéressante.
En fait, t'as envie de savoir la suite.
Oui. Oui.
La passion est toujours voilà, high level.
Bah ouais,
ouais, c'est ah, ça.
Ouais. Bon, après, de toute façon, c'était couru d'avance que ça allait être très bien, puisque bah, déjà, c'est quand même la saison de Pénélope et de Colline.
Le meilleur personnage. Ah. Perso, je l'adore. Oui.
Et très grande actrice, oui. Nicola Coughlan.
Oui, vraiment.
Qui a très aussi... grande femme.
Qui va jouer dans le prochain spécial de Noël de Doctor Who, le 25 décembre 2024.
Non, c'est
Nicolas,
vrai.
Oui, Nicolas Coughlan. Voilà, non, je l'arrête. Là, je l'arrête.
Let's go, on va regarder.
C'est sur Disney Plus, en plus. La nouvelle saison, c'est le 11 mai. Regardez-la.
Super jolie.
Mais Nicolas Coughlan qui a aussi joué dans Derry Girls.
Derry Girls, un petit rôle dans Barbie.
Oui.
Pas ouais, un petit peu. Enfin, personnellement, quand j'ai vu qu'elle était dans Barbie, j'espérais l'avoir un peu plus, mais quand même incroyable. Puis vraiment, elle milite pour dire, elle met en avant son personnage et le fait que,
oui, oui,
voilà, c'est une très, elle est très engagée, etc. Mm. Faites vraiment justice à son personnage et c'est très bien qu'elle soit mise en avant en ce moment. Mm. Magnifique dans cette saison.
Trop belle.
C'est splendide. Là, c'est surtout la prochaine que j'attends avec impatience. Parce
la
que
deuxième partie.
Ouais, la deuxième ouais, partie.
Bah, la tous deuxième les... partie.
Non, mais tous les... j'ai parfaitement conscience que ça va être le 13 juin. Mais tous les jours, je regarde en espérant que, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un déclic. Peut-être
sur
que...
Instagram, il y a quelques images, j'ai vu, mon dieu.
Quand j'ai... Ah non, mais déjà, quand j'ai vu le petit synopsis. C'était la synopsis. Ah,
synopsis.
Bon, synopsis pour la future, j'étais en mode, comment ça va se passer? Comment ça va se passer?
On se pose la question.
Parce que cette histoire d'amour, qu'est-ce que ça va donner en fait?
On verra bien quand ça
les
sortira.
Les fans des livres ont dit que ça va être encore. Ouais. Mieux à la suite.
Ah ouais, mais j'attends avec
bon,
impatience.
Bon, ben on attend alors.
Moi j'espère que la scène de la calèche va se reproduire.
Je crois qu'on espère tous là.
Bah, disons que la scène dans la calèche, vu qu'ils sont arrivés chez Bridgerton, ça va se passer autre part.
Ah bah donc, voilà.
Ouais, ils vont continuer. C'est ça.
Bah, j'espère que les petits frères et sœurs seront pas là.
Ça sera gênant.
Aucun frère et sœur, aucun.
Bon, s'il vous plaît.
Il y a Héloïse qui va débarquer. Oups.
Désolée de vous déranger.
Elle va être contente en plus.
Ouais,
c'est sûr. Ouh là là. Donc, là.
Déjà qu'il y avait Kate et Anthony qui étaient limite à un moment donné. Tu as le mot.
Oui.
Oh, excusez-moi.
Bon, ouais, bref.
Est-ce qu'il y aura d'autres histoires d'amour dans cette seconde partie? Puisque ouais, visiblement Francesca est bien partie. Et il y a beaucoup de ouais, fans qui ont des doutes pour Héloïse et Cressida quand même. Hein.
Et aussi ouais, pour mais Lord Debling aussi.
Ouais.
Faut voir.
Ouais, c'est vrai.
Il y a l'histoire avec la mère des Bridgerton qui, est, oui, qui commence à être aussi intéressante. Ouais. Parce aussi que là, elle se rapproche du frère de Lady
Dunbury.
Tous
les deux meufs, qui plus est.
Oui.
Et ça oui, avait on avait commencé à en entendre parler dans Queen Charlotte.
Ouais, ouais, quand elle disait ouais, ouais, son jardin
ouais.
ouais, en fleurs.
C'est ça. Et huitième des 10 séries les plus regardées cette semaine sur ah, Netflix, ouais, alors que ça fait un an que la saison.
Oui, ça par contre.
Mais vraiment, moi,
c'est l'engouement de Bridgerton.
Je la trouve très, très attachante, moi, cette série.
Ouais, la vraiment, Queen Charlotte, ouais, je trouve ouais, que c'est encore mieux.
Je, que la vu série que le roi est malade, entre guillemets, moi, je la trouve très touchante comme histoire d'amour. Parce que je trouve que c'est vraiment très beau comme histoire d'amour ouais, quand quelqu'un est, oui, est malade et qu'il faut supporter, donc, du coup, ouais, son mal.
C'est vrai.
Et que l'amour résiste à ça.
Mais je trouve
moi,
que c'est
je
bien,
trouve
en fait,
ça très beau.
Cette chronique, elle est vraiment axée sur ce côté où il ne faut pas juste chercher à être bien placé dans la société, une personne de convenance, mais vraiment chercher quelqu'un qui te fait vibrer, qui
te passionne.
Bah, voilà, la passion, l'amour.
Je tiens à dire, ça fait vibrer, mais c'est que dans un cercle très fermé quand même.
Oui, c'est oui, vrai. Oui,
chercher
vrai,
chez
c'est
les
vrai,
bases des débutantes. Les bases des débutantes, c'est pas la
c'est que la haute société, quoi, mais... Ça fait rêver.
C'est vrai.
Ouais, c'est sûr.
Ça met des papillons dans les ventres, dans les yeux, partout.
Oh, mais oui.
La musique. Les...
Oh, oh mon dieu.
Oh là 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 là. En ce qui parle de la musique.
Relançons le sujet. La musique.
La musique dedans, elle est palpitante. Oh. Et je suis désolée, mais à chaque fois quand ils rentrent, surtout quand ils ouvrent la saison et quand il y a le moment des balles.
Oh.
Je suis en admiration. Mon oreille est tendue.
Et puis chaque saison, ils reprennent des classiques et ils les transforment en version instrumentale.
Il y en a une, c'était dans la première saison, c'est The Vitamin String Quartet Dancing on My Own qu'ils ont repris.
Ah oui, mon dieu.
Elle est splendide. Je me suis imaginé des choses dessus. Mais tellement.
Parfois, quand je révisais, je mettais cette
putain de playlist. Mais vraiment, ça te met dans un état, mais vraiment dans une bulle entière. T'es vraiment accaparé dedans.
Oui, c'est trop bien.
Oui, effectivement.
Regardez la chronique Bridgerton, écoutez leur mélodie et vous allez réussir votre étude.
Si vous ne regardez pas la série au milieu des partiels.
oui, non, parce que ça c'est pas très, très
ça
prometteur.
Voyons.
Je ne vois pas qui. Attends,
tout le monde.
Personnellement, je l'ai fait.
Étudiants qui sont...
Je l'ai fait moi aussi. Je l'ai fait.
Moi aussi.
Dès qu'elle est sortie, même si j'étais en pleine partielle, c'est pas grave.
Mais
je l'ai regardée quoi.
Quelle idée de sortir à cette période Netflix.
Mais oui, c'est clair.
Pourquoi avoir séparé en deux parties?
Oui.
Non, vraiment.
C'est pour faire attendre.
Parce que moi, je vous jure que je l'ai enchaîné de minuit jusqu'à 4h du matin. J'étais là, j'ai attendu, j'ai patienté,
mais
j'ai tout regardé.
En fait, la moitié des personnes qui l'ont regardé l'ont fait une après-midi.
Ah, mais bien sûr.
Mais enchaîné d'un coup. Comment tu veux t'arrêter?
Je me suis réveillée, je l'ai regardé, je suis allée manger, j'ai continué, j'ai fait « Ah, mais c'est vrai, il n'y a que 4 épisodes. »
Mais oui, je suis déçue. Donc après, t'es déçue.
Vraiment?
Surtout qu'il laisse sur un cliffhanger là.
Oh mon dieu. Mais on sait très bien qu'elle va dire oui.
Là. Avec ses petites mains. Mais alors, que réponds-tu? Pousse-moi. Elle va pas dire non.
Alors moi j'ai trouvé très drôle la scène quand Colin lui demande est-ce qu'il peut continuer.
Ah la petite
alors, ça,
main.
J'ai trouvé ça très très drôle de sa part. Voilà.
Regardez, vous verrez de quoi on parle.
Moi, il reste
Colin,
ils ont petit.
Pas comme sa sœur, visiblement.
De quoi? Oui, c'est vrai.
Et son petit plaisir aussi, on va dire, son petit rêve.
Oui,
moi je croyais que c'était Pénélope,
mais j'ai cru que j'avais loupé un épisode.
Colin.
Moi je me suis dit, mais putain, mais ça se passe pour de vrai? Ah non, il rêve. Ah, non.
Moi j'ai cru que j'avais loupé un épisode, du coup j'ai arrêté, j'ai fait retour et j'ai dit, ah bah non, en fait, c'est la suite.
Mais j'ai trouvé ça très drôle quand j'ai compris que c'était Colin qui faisait ce rêve.
Moi je pensais que c'était Pénélope.
Mais oui, mais moi j'ai pas
fait ce piège à tous.
Mais c'est très bien.
Moi j'ai trouvé ça très très drôle.
Parce qu'on savait pour que Pénélope.
Mais oui, on savait.
Colin, bon, il était un petit peu stupide.
Et.
C'est comme dans la calèche quand elle dit oui, mais on est des simples amis. Oui, bah écoute,
oui.
Bien sûr.
Et on peut être
on les connaît, les amours entre amis.
C'est
hein.
ça.
Évidemment.
Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à ce fameux baiser, donc du coup, qu'on va pas plus préciser parce que ceux qui n'ont pas vu la série, c'est pas très gentil.
Quand même.
Donc, ce petit baiser, on s'y attendait pas du tout. Moi, personnellement, je m'y attendais pas du tout. Mais on voit que ça perturbe vraiment Colin.
Ouais,
on voit vraiment que ça le perturbe.
Oui, oui.
Colin qui a énormément changé entre cette saison. Je sais pas, mais partez tous en voyage. Partons en voyage et revenons.
Il faut visiter la France, il faut visiter l'Espagne et
l'Italie.
Ah oui, et surtout à Paris, il faut rencontrer énormément de personnes qui apparemment te font changer. Voilà. On a pu voir dans ses petits carnets les écrits.
De base, qui écrit très bien d'ailleurs.
Oui,
qui écrit très très bien.
Très poétique.
Très poétique ce qu'il écrit.
J'ai toujours kiffé Colin et ça ne fait que renforcer.
Alors, moi personnellement, je ne l'aimais pas trop au début. Mais je voulais qu'il y ait une romance entre Pénélope et Colin, du coup, parce qu'on voyait très bien que Pénélope, elle était accro à lui, quoi.
Tout le monde le voyait, sauf
mais oui, voilà, c'est ça. Et du coup.
Un gars, quoi, la définition même d'un gars, aveugle.
Du coup, quand je l'ai revu vraiment, je l'ai trouvé pour ceux que je connais et qui n'aimaient pas trop Colin aussi. Donc on l'apprécie on commence à s'attacher à lui dans cette troisième saison. Vraiment.
Ouais.
Alors moi au début de la troisième, je l'aimais bien dans les deux premières saisons. Le premier épisode de la saison 3, je me suis dit, mais le frérot, il a fumé quoi?
Vraiment?
Oui, oui, oui.
Vraiment, j'étais là, je suis là en mode, pardon? Tu es parti où? Le tout gentil, tout mignon? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai vu toutes les filles qui étaient adulées autour de lui, comme ça,
c'est le pire, c'est qu'il a enjoué.
Ouais.
J'avais envie de lui mettre des claques.
Énormément. Et moi, j'étais là en mode, mais
Comme dit les Bénédicts, elles viennent chasser en maître, là.
Oui. Et lui qui mais
après,
fuit tout ça.
Mais après, ça amène un petit coup d'adrénaline ouais, aussi. Parce que, en fait, vu qu'il est apprécié de toutes les femmes, oui. Maintenant, Pénélope, il y a quelque chose qui
c'est
qui
sûr qu'elle est passée d'enfant de à femme directe.
Ça met vraiment un coup et ça fait prendre conscience, tu vois, de la passion ouais. qu'il y a entre ces deux personnes.
Ouais. Et oui.
Voilà.
Puis bon, Pénélope qui en avait un petit peu marre de sa daronne, ce que je comprends.
Il y a des fois, elle est pas très gentille, hein, on est d'accord. Voilà.
Mais elles sont très drôles. Sa mère et ses sœurs sont vraiment.
Non, mais ses sœurs, oh là 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 là.
Vraiment, elles sont complètement à côté de la plaque, ses sœurs. Enfin, je suis désolée, mais.
Mais qu'est-ce que vous faites avec vos maris?
Bah. Mais clairement.
Voilà quoi. Bon, allez regarder.
Ouais, on devrait peut-être passer à la suite.
Oui, on va peut-être passer aux actus parce que bon.
Pauvre Maxime.
Ouais. Bah, j'avais qu'à regarder la série.
Ça a l'air trop bien.
Regarde-la.
On te conseille.
Vas-y.
Regarde-la.
Non, mais
c'est très intéressant.
Tu rentres chez toi là après. Tu allumes Netflix.
Les trois saisons et le spin-off.
Oui,
c'est direct.
Bon, après, c'est vrai que les épisodes ils sont assez longs, mais vraiment ça vaut le coup.
Non, mais tu vas commencer. En plus, on est en vacances là. Tu commences ce soir et dans deux jours, t'as fini.
Au pire, zappe la première saison. Commence par les deux d'après.
La saison 2, personnellement, c'est ma préférée.
Ah, moi, pour l'instant, c'est la 3.
Moi,
mais...
c'est la 3 de loin.
Moi, vraiment, c'est la 3.
La reine Charlotte reste au-dessus.
Là, ouais, moi.
La reine Charlotte est vraiment touchante, vraiment.
J'aime beaucoup.
Donc, du coup, ouais. Moi, ouais. C'est mes deux préférées. La troisième saison et la reine Charlotte.
Ouais, mais globalement, à partir de la saison 2, c'est bien. La saison 1, bon, c'est intéressant parce qu'il y a les balles, tout ça.
Ouais.
Mais...
Bon, je pense que c'était le temps de se dire, bon, est-ce qu'il y a des gens qui vont accrocher à ça? S'il y a des gens qui accrochent, on essaye de se détacher de cette partie et ça devient un peu plus...
Mais après, la seconde saison est très intéressante aussi. Hein.
Oui. Mais aussi, on pourrait je l'ai caractérisé de première saison en amour très pur, très bleu, fleur bleue.
On découvre.
Voilà. La saison 2, c'est vraiment le dilemme entre le cerveau et le cœur, le désir et tout ça. Et saison 3, bah, l'apothéose.
Là, c'est l'apothéose, c'est la
Friends
passion.
Friends to lovers.
C'est ça.
Ouais. Ouais. Mais la saison 3, en fait, c'est surtout que, honnêtement, Daphné, pas ouf. Voilà, quoi. Allez.
On passe aux actus.
Oui.
Mais c'est disponible sur Netflix. En
oui,
tout cas,
évidemment.
On rappelle, bien évidemment.
Prochaine partie, 13 juin.
Ouais.
Oui.
Encore, vous avez 20 jours à attendre. Je sais que c'est dur,
Entre temps, on aura eu le résultat des partiels. Pour certains, on sera plein de joie et du coup, on le regardera avec.
On se consolera avec.
Deux, voilà, on se consolera avec.
Aussi, pour certains.
C'est ça.
Voilà.
On se réconfortera.
Et ça
laisse
le temps de regarder pour la saison 2. Voilà, si vous commencez maintenant, vous serez prêts.
Ah oui, là.
Merci, Maxime.
Je note. Je me sens un peu obligé là.
On te met pas de couteau sur la gorge, mais regarde.
Pas loin.
Passons aux actus. Là aussi, ça va être
ça va être à moi de faire un long monologue.
Attends, parler.
Puisque le festival de Cannes a eu lieu et a toujours lieu d'ailleurs quand on enregistre. En ce mois de mai, et donc forcément, il y a eu plusieurs films projetés qu'on attendait. On avait parlé de ces films-là le mois dernier. Donc, il y a eu les retours sur ces films-là. Et donc, je vais vous rappeler les films principaux qui ont été présentés à Cannes. Le premier, donc Kinds of Kindness, qui est le retour de Yorgos Lanthimos, qui avait été le réalisateur de Pauvres Créatures, ou Poor Things en anglais, avec Emma Stone. Elle avait eu l'Oscar de la meilleure actrice, on en avait parlé. Et donc Yorgos Lanthimos, il est déjà de retour, et il s'agit ici d'un film composé de trois histoires différentes, avec des acteurs qui incarnent des personnages différents dans les trois histoires. Donc les trois histoires, elles suivent un homme sans choix qui tente de prendre le contrôle de sa propre vie, un policier inquiet parce que sa femme disparue en mer est de retour et qu'elle semble être une personne différente, et une femme prédéterminée à trouver une personne bien précise dotée d'un pouvoir spécial destinée à devenir un chef spirituel prodigieux. Les acteurs principaux, c'est Emma Stone, Jesse Plemons, William Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, John Alwyn et Hunter Schafer. Ça sort le 26 juin en salle et les retours à Cannes ont été plutôt bons, pas au niveau de Pauvres Créatures, mais voilà, ça a l'air d'être une sacrée proposition de cinéma. Et d'ailleurs, Yorgos Lanthimos prépare déjà son prochain film pour l'année prochaine, Bugonia, donc toujours avec Emma Stone et avec Jesse Plemons, et ça suivra deux hommes obsédés par les complots qui kidnappent une grande PDG parce qu'ils sont convaincus qu'elle est une extraterrestre qui a l'intention de détruire la Terre.
Pourquoi pas
d'accord.
Voilà.
Pourquoi pas,
écoutez. Oui,
c'est un concept.
J'adore Yorgos Lanthimos, allez voir Pauvres Créatures, d'ailleurs maintenant que c'est sorti, il est génial.
Mais oui.
Il y a Emilia Pérez, qui est un film, bon, un réalisateur français, mais un film en espagnol, donc de Jacques Audiard, qui avait été Palme d'Or pour Dipan en 2015, réalisateur d'Un Prophète, et en 2021 des Olympiades. Les Olympiades, d'ailleurs, un film avec Noémie Merlan, qui est jouée dans Portrait de la jeune fille en feu aussi. Les Olympiades, c'est super. Donc, Jacques Audiard est de retour pour Emilia Pérez. Donc, surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Oui, pourquoi ? Parce que le personnage principal est tenu donc par un personnage et une actrice trans, donc Carla Sofia Gascon. Donc ça, c'est sympa. Attends, déjà, de la représentation trans. Et surtout parce que ça a l'air d'être un sacré mélange, un mélange des genres cinématographiques, puisqu'on a, c'est un film donc de gangster, mais c'est aussi un film musical avec des comédies, voilà. Donc ça a l'air intéressant. Et donc au casting, on retrouve aussi Zoé Saldana, donc de Avatar et des Gardiens de la Galaxie, et Selena Gomez.
Oh.
Donc c'est une comédie musicale qui se déroule au Mexique, donc qui est en espagnol, comme j'ai dit. Il y a eu des retours. Alors là. Les retours à Cannes ont été dithyrambiques. À ce qui paraît, c'est un film assez génial. Même si j'ai lu quelques critiques qui sont transgenres, parce que ça m'intéresse de voir comment c'est. Voilà. Ouais. À ce qui paraît, c'est un peu maladroit, mais c'est tenu, on voit que c'est fait avec bienveillance, mais que c'est un peu maladroit. Mmh. Donc, voilà. Mmh. Ça sort le 28 août en salle. Je ne peux que vous enjoindre à aller le voir, puisque c'est un film Jacques Audiard, c'est génial. La représentation trans, c'est génial. Et le mélange comédie musicale, film de gangster, ça a l'air génial aussi. Le prochain film dont je vais vous parler, c'est Megalopolis. Donc le film qui a été voulu depuis 40 ans par Francis Ford Coppola, donc le réalisateur des Trois Parrains et de Apocalypse Now dans les années 70 et 90. Le synopsis donc est assez long. À New York, une jeune femme nommée Julia Quiquero est partagée entre la loyauté envers son père Frank Quiquero, le maire de la ville, et son amant, l'architecte César. Si le premier a une vision conservatrice de la société, César est plus progressiste et est tourné vers l'avenir. Après une catastrophe qui a ravagé la ville, l'architecte veut recréer la cité, en faire une utopie, alors que le maire corrompu y est totalement opposé. Donc au casting, on retrouve Adam Driver, donc, qu'on connaît bien, hein, Nathalie Emmanuel de Game of Thrones, Aubrey Plaza et Giancarlo Esposito qui jouait Gus Fring dans Breaking Bad. Donc les retours, alors j'ai rarement vu des retours aussi partagés à Cannes, c'est-à-dire soit les gens crachent dessus en disant qu'on ne comprend rien et que c'est trop long,
génial.
Que, voilà. Soit c'est ils disent c'est un film visionnaire.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Ah oui, c'est très pas
vraiment, j'ai rarement vu des voilà. Et d'ailleurs, c'est un film qui a été hué à Cannes. Et
ah ouais.
Ça n'arrive quasiment jamais de nos jours, vous savez.
Carrément
souvent. Oui, oui, oui.
Ah ouais, quand même.
Souvent, c'est dans la légende des films des années 60-70, oui, ça a été hué à Cannes et tout, mais ça se fait plus aujourd'hui, mais là, il a été hué. Donc généralement, c'est bon signe. Parce que les grands films sont hués et critiqués à Cannes. Donc, bon, voilà. Ah oui, je dois mettre un petit disclaimer, parce que, bon, Francis Ford Coppola, donc légende du cinéma, Parrain, Apocalypse Now, tout ça, il a été accusé d'agression sexuelle contre des figurantes. Forcément, je suis obligé de le dire parce que, bon, on a tendance dans la sphère cinéphile à un peu fermer les yeux parce que bah, c'est un grand nom comme ça. Mais bon, c'est assez grave, il est accusé de ça, voilà, je suis obligé de le dire.
Puis quand même, à l'ouverture du festival, il y a quand même Camille Cotin qui a fait un grand discours là-dessus. Nous,
oui,
qui a
oui, mais c'est que de façade parce que, honnêtement, ça m'a beaucoup énervé. Enfin, honnêtement, ça fait beaucoup de bien que Camille Cotin dise ça et tout, mais le film qui était projeté juste après, c'est le deuxième acte de Quentin Dupieux, donc le réalisateur de Mandibule, oui. Voilà, j'en parle souvent, qui s'ouvre littéralement sur une blague transphobe, en fait.
Génial.
Donc,
ouais, ouais.
Ouais,
c'est fort.
Ouais, ça a été...
Honnêtement, je trouve que c'est une... Et l'année dernière, ça ouvrait le film avec le film de Mai Wen, Jeanne Dubarry, donc Mai Wen,
oui.
Qui a été accusé d'agression envers un journaliste, et avec Johnny Depp dedans, bon, on connaît les déboires de Johnny Depp.
Ouf,
ouais. Moi, je trouve... que c'est une...
Mais c'est maladroit, c'est... Enfin...
Ah, oui, voilà, c'est très maladroit, je trouve. Alors, c'est bien d'avoir des messages, bien évidemment, c'est des messages importants avec Camille Cotin, tout ça et tout.
Il faut savoir
mais
les placer.
J'arrive
ouais,
pas
c'est
à...
ça, ouais, il faut savoir les placer.
C'est ça, en fait, direct, dès qu'ils font un effort, quand, direct, ils se sabordent eux-mêmes.
Mais oui,
voilà,
c'est ça.
Je trouve que ouais. C'est une hypocrisie, malheureusement, totale. Mais bon, bref. Megalopolis, ça sort le 25 septembre au cinéma. Ça a l'air d'être une sacrée proposition de cinéma. Sans salle, voilà. Enfin, il y a d'autres films qui ont fait sensation, qui sont favoris pour la Palme d'Or, avec Emilia Pérez. Il y a deux autres films qui sont favoris à la Palme d'Or. The Substance, qui est réalisé par la française Coralie Farja, et donc c'est avec Margaret Qualley. C'est un film dans la veine un peu de Titane. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, ne lisez rien sur ce film, juste allez le voir, parce que moi je ne savais pas ce que c'était, je l'ai regardé, je l'ai regardé pour la première fois il y a 3 ans, je me souviens exactement de ce que c'était. Le film, vraiment, okay. ça m'a marqué. le deuxième film qui a également été bien acclamé, c'est Anora, donc de Sean Baker, qui est un jeune réalisateur américain, qui raconte la romance entre un héritier d'une grande famille russe et une travailleuse du sexe new-yorkaise dans l'Amérique d'aujourd'hui.
Ouais, c'est deux trucs opposés, quoi.
C'est ça.
Vraiment.
Mm-hmm. Moi, j'aime beaucoup Sean Baker. Il avait fait un film, The Florida Project, en 2017, avec Willem Dafoe, qui est génial. Il avait fait Red Rocket en 2021. Alors là aussi, je ne vous le spoile pas. Vaut mieux que vous alliez le voir. Voilà. Et c'est un réalisateur qui aime filmer l'Amérique profonde, les campagnes, les gens qui sont... Pas les gens qui sont fauchés, mais les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, voilà. Je trouve que c'est un cinéma passionnant.
La misère,
et surtout, c'est un réalisateur très jeune. Souvent, on parle des maîtres du cinéma, ou même Nolan, tout ça, ils ont 50 ans, tout ça. Sean Baker, c'est un réalisateur qui doit avoir la quarantaine, par là, il est encore jeune pour un réalisateur. C'est passionnant. Et Anora, qui a de très très bonnes critiques, ça m'a rempli de joie, puisque j'en attendais beaucoup. Et visiblement, ça ne déçoit pas. La prochaine actu.
On sait déjà depuis l'année dernière qu'une saison 4 et 5 de la série The Witcher est prévue. Et ce mois-ci, on a eu les premières images de Liam Hemsworth qui reprend le rôle de Geralt de Rive, précédemment incarné par Henry Cavill. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, je vous conseille d'aller la regarder. Si vous aimez les univers fantastiques, accrochez-vous, la temporalité, ça retourne le cerveau, quoi.
C'est spécial.
Oui, très spécial.
C'est spécial. Pour
accrocher.
Ouais. Donc,
si vous aimez l'univers médiéval, surtout, c'est très très médiéval.
Ah oui.
Ouais.
Et donc la série parle de l'histoire de Geralt, un sorceleur, qui essaye de se trouver à une place dans un monde où les humains se réveillent plus vicieux que des bêtes, et il va être entraîné dans une mystérieuse toile tissée par les forces luttant pour contrôler le monde. Ça, voilà, c'est le synopsis un peu de la série en général, mais moi ça me saoule un peu que ce soit Liam Hemsworth, Geralt de Rive.
Je suis d'accord avec vous. Parce que vraiment, ça, je pense que ça va enlever le charme que Henry Cavill avait mis
déjà
dans le rôle de...
Moi, je n'avais aucun intérêt pour cette série. J'avais regardé les deux premières saisons, c'était ennuyant à mourir. Le seul intérêt que j'avais, c'était Henry Cavill. Alors là, en plus, ils nous mettent le faux Hemsworth, en plus. C'est même pas vrai, c'est même pas Chris.
C'est Liam.
Non, voilà, merde. Je n'ai plus aucun intérêt pour cette série. À la limite, je préfère aller jouer au jeu, à la limite Witcher.
Oui. C'est vrai que c'est un jeu et un livre aussi, à la base.
Oui, à la base, c'est un livre. Et après, ça a été fait en jeu.
Maintenant en série.
Et après en série. C'est vrai que c'est une série un peu spécifique, il faut vraiment accrocher.
Ah oui, oui.
Le livre n'a rien à voir, mais il paraît que ça suit bien le jeu aussi. Suivant les dires que j'ai entendus, hein, bien sûr. Parce que personnellement, je n'ai pas trop joué au jeu. Donc voilà. Mais vraiment, je pense que ça va enlever du charme. À la série.
Mais tous les fans sont déçus.
Vraiment.
Clairement.
Je pense qu'ils vont perdre beaucoup.
Je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui est heureuse qu'Henry Cavill est parti. Il n'y a pas une.
Ouais. Clairement. Puis ils voulaient faire, encore une fois, Netflix voulait faire un spin-off, annulé.
Mais...
Ils annulent tout.
Ah oui, il y avait Michel Yeo dedans, je crois. C'était Blood
Origin, il y avait un spin-off. Et ils avaient déjà dévoilé un petit peu le synopsis que ce serait.
Ça se trouve, il n'y aura pas de saison 5. Hein, avec Liam Hemsworth, ça se passe mal.
Après, si c'est déjà prévu, en général, quand ils disent, normalement, ils ne peuvent pas. Une fois que c'est prévu sur les papiers, je crois que c'est parce qu'il y a déjà
la
production qui commence.
Rien que la marque, c'est connu, The Witcher, les gens ils connaissent de nom, du coup ils regardent. Il y a toujours des gars qui regardent.
Mais
je pense que ça va quand même enlever beaucoup.
Ils
vont perdre beaucoup.
Oui, oui.
Parce que là, enlever un acteur comme ça, c'est. Je pense que là, ça va être très compliqué pour eux.
Il n'y aura pas de saison 6 sans ça. Mais
non, je pense pas.
On passe à la prochaine actu.
Alors, dans un tout autre registre, on connaît les têtes d'affiche du préquel de la série Dexter. Alors, ça s'appellera Dexter Original Sin. Et donc l'histoire nous ramènera en 1991 à Miami. Dexter est encore un étudiant en passe de devenir un tueur en série. Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, le jeune homme trouve réconfort et compréhension auprès de Harry, son père adoptif. Celui-ci lui enseigne des règles pour l'aider à repérer et à tuer des personnes qui méritent de mourir, tout en évitant de se faire coincer par les forces de l'ordre. Alors, dans le rôle du jeune Dexter, on retrouve l'acteur irlandais Patrick Gibson, qui est connu pour son rôle de Nikolai Lansoff dans la série Shadow and Bones. À ses côtés, on retrouve l'acteur américain Christian Slater, qui a joué dans le film Le Nom de la Rose, pour les plus connus, et sa série la plus connue, Mr. Robot. Et dans le rôle de la sœur de Dexter, Molly Brown, et la série est prévue pour 2025. Donc voilà, Dexter, c'est quand même assez connu. Donc,
oui,
ouais. Fallait quand même le mentionner.
Il y a une nouvelle plateforme qui va se lancer. C'est vrai qu'il n'y en avait pas assez.
Non,
on n'a jamais le choix.
Donc la plateforme de Warner Bros. Et de HBO Max, c'est son nom, se lance en France le 11 juin, et c'est là que sortira d'ailleurs House of the Dragon, le 16 juin, donc c'est-à-dire le préquel à Game of Thrones.
Ouais.
Oui, si.
La saison
2. Oui, oui,
on en parlera dans l'épisode spécial été que vous irez écouter, bien sûr,
évidemment,
plus tard dans l'année. Donc le catalogue, parce que c'est ce qui est le plus intéressant sur une plateforme, le catalogue. Alors, dans les films, on aura notamment Harry Potter, les Matrix et la trilogie Dark Knight. Et en série, donc on aura toutes les séries HBO comme Succession, Game of Thrones, Euphoria, True Detective et toutes les séries HBO auxquelles vous pouvez penser. Les Sopranos,
The Handmaid's Tale, probablement. Voilà.
Oui.
The Handmaid's Tale, je crois pas que ce soit HBO.
Ah mais non, parce que c'est passé sur...
Oui.
Non, c'est passé
sur OCS.
Ouais,
aussi,
parce que c'est aux États-Unis, c'est Hulu. Sur Hulu. Donc
oui,
voilà,
c'est Hulu.
Ouais, ouais.
Non, mais c'est passé sur Disney Plus surtout.
Et ouais. Mais du coup, ouais,
The Last of Us.
The Last of Us, ouais, tout ça. La saison 2 qui arrive en 2025, d'ailleurs, ça vient d'être annoncé. Oui. Ce sera sur Max aussi.
Trop bien.
Donc, c'est soit disponible gratuitement si vous disposez déjà d'un abonnement Canal Plus Ciné Série, soit, alors là, il y a 4 formules. Donc, soit vous payez 6 euros par mois, mais là, vous avez une formule avec des pubs. Soit 10 euros par mois et vous avez la formule standard. Soit 14 euros par mois et là, vous avez la 4K. Soit 19 euros par mois et là, vous avez Eurosport en plus.
Wow, génial.
Encore une autre, super chère.
Voilà,
un
abonnement en plus. C'est pour ça, malheureusement, je n'aime pas beaucoup Canal+, mais heureusement qu'ils ont leur offre ciné-série, qui est certes 25 euros par mois, mais vous avez Netflix, Disney+, OCS.
25 euros pour les étudiants, donc il faut en profiter tant que vous êtes jeune.
Jusqu'à 25 ans.
Prenez ça quand vous êtes jeune.
C'est bien. C'est vrai qu'on fait un peu de la pub, mais en soi, c'est 25 euros par mois pour... Disney Plus,
ouais, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup.
Disney Plus,
en fait.
OCS, Canal Plus et Max. Ouais, ouais.
Et pour revenir sur une série, t'as parlé de True Detective. Alors j'ai regardé les premières saisons avec mon père. Et vraiment, ceux qui aiment les polars, je leur conseille. Vraiment, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, les musiques, elles sont géniales.
Ouais, à ce qui paraît, je ne l'ai
elles
malheureusement pas vu.
Elles sont vraiment géniales.
La saison 1 avec Matthew McConaughey, qui est l'acteur principal d'Interstellar, si vous ne voyez pas qui c'est. Donc c'est la même année qu'Interstellar est sorti en plus, donc là il était à son prime. À ce qui paraît, la saison 1, c'est au-delà du fantastique, à ce qui paraît. C'est incroyable.
Vraiment, cette série, je la conseille vraiment, hein, parce qu'elle est vraiment super intéressante. C'est lien avec Polar, des Polars, ceux qui aiment les Polars, mais vraiment... très intéressante, je la conseille.
Voilà,
vraiment.
Ce sera dispo sur Max à partir du 11 juin.
Et on va parler maintenant. Ah, pardon.
On va parler de la série NCIS, très vieille série des années. Ben, de 2003.
2003,
ouais. Le premier épisode, c'était en 2003.
On en est à la saison 21, là, actuellement. Oh,
ça fait beaucoup.
Il y a eu...
oui. Oui, beaucoup.
Il y a eu quelques personnages qui sont décédés, déjà.
Et oui, malheureusement.
Le pauvre. Bon. Et il va y avoir une nouvelle série qui va être centrée sur les personnages de Tony DiNozzo et Ziva David, pour ceux qui connaîtront. Et cette série va commencer à être tournée cet été et elle devrait sortir fin 2024, début 2025.
Alors NCIS, vous savez, c'est les séries policières. Chaque semaine, une nouvelle affaire. Et, voilà. Et puis, il y a un arc au début et à la fin de la saison. Très classique comme forme de télévision.
Oui.
Ouais.
Moi, j'adore. parce que j'adore les séries policières, j'adore NCIS.
Je te suis là-dessus.
J'adore
les séries policières, moi aussi.
Ah voilà, mais oula.
Oula.
Mais pareil, New York Section Criminelle.
Ouais, est-ce que t'as déjà vu, regardé, moi je conseille, parce que c'est tiré de livres, de polar, du coup, alors la série s'intitule Castle. Et vraiment,
oui.
C'est super bien. J'adore cette série.
J'ai regardé la
c'est
saison.
Vraiment,
toutes les saisons.
C'est vraiment très bien. Et dans les livres, donc j'en ai acheté quelques-uns. Et je compte acheter tous les autres, du coup. Parce que vraiment, c'est vraiment une très bonne série.
Oui.
Vraiment.
Mais c'est vrai parce que cette forme de télévision, au final, de série, on a tendance à la dénigrer en mode c'est un peu de la petite fiction, quoi. En mode c'est tout, je passe tous les lundis ou tous les mardis un nouvel épisode.
Ouais.
On les considère pas comme des séries, comme les séries HBO, tout ça et tout. Mais il y a quand même un peu de la recherche.
Ah oui.
Voilà, c'est bien écrit.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Comme pour New York Unité Spéciale. Cette série, elle est super, elle est incroyable parce que finalement, elle retrace plusieurs faits. J'aime bien parce qu'à chaque fois, elle n'a pas été tirée de faits réels, etc. Purement inventée. Bon, excuse-moi, Coco, mais au bout d'un moment, quand tu regardes ce qui se passe dans la société et ce qu'on voit à l'intérieur,
c'est un peu vrai, quoi.
On retrouve des échos, mais je trouve que c'est ça qui est encore mieux, en fait, du fait que ça retrace vraiment l'entièreté de tout ce qui peut se passer dans la société, que finalement, on voit pas, en fait, quand on est dans notre petit coin Puis finalement, on se dit que la police, elle se bouge quand même.
Les séries policières, en tout cas celles américaines, je trouve, reflètent hyper bien les États-Unis.
Ouais.
C'est passionnant.
C'est vrai.
Et je trouve qu'NCIS, c'est vraiment le symbole de l'Amérique des années 2000.
Est-ce que vous avez déjà regardé des séries policières, mais anglaises? Moi, je les trouve très bien.
Sherlock Holmes,
Ouais, ça fait penser à Sherlock Holmes, mais je veux dire.
Oui, mais les séries anglaises, par
exemple,
Broadchurch.
Oui, Broadchurch
est très
intéressant.
Par le showrunner de Doctor Who entre
2018
et 2022.
C'est vraiment
et avec David Tennant, le dixième docteur.
Oui.
Et avec Olivia Colman également qui joue.
Cette série est très bien faite. Et, et aussi, je tiens à préciser aussi que Meurtre au paradis, c'est très bien aussi.
Oui!
je suis un fan absolu de Meurtre au paradis.
Moi aussi, je suis hyper fan de cette série.
Tous les lundis soirs sur France 2, c'est sur France TV. Il y a la saison 13, regardez-la.
Vraiment, les inspecteurs sont tous anglais, mais ils ont des génies, mais pas possible. Mais ils font très rire aussi.
On va en parler en antenne, là, parce que Meurtre au paradis, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui regardait cette série.
Eh ben, maintenant, t'as trouvé quelqu'un.
Écoute, c'est incroyable.
En fait, c'est ça, ces séries, elles font partie juste du quotidien des gens.
Mais oui,
c'est ça. C'est ça.
C'est que, mais vraiment, en fait, c'est toutes les semaines. Mais c'est comme quand on était petit, les séries qui avaient sur Disney Channel que tous les soirs à 18h.
C'est exactement ça. Mais vraiment, cette série, elle est vraiment très bien. Vraiment, les inspecteurs sont très drôles, mais en plus, ils sont très intelligents.
Ah oui, parce qu'on n'a pas dit ce que ça racontait.
Voilà.
Meurtre au paradis, c'est généralement un inspecteur anglais, du coup, qui est promu à Sainte-Marie, donc qui est une île fictionnelle des Antilles.
Des Caraïbes, ouais, aussi.
Oui. Et du coup, il retrouve là-bas l'équipe de police de l'Antilles et ils travaillent ensemble pour résoudre des meurtres, d'ailleurs.
Oui,
ça m'a toujours fait rire comment une petite île des Antilles, il y a des meurtres sans arrêt.
C'est clair.
Comment ils font ça?
Je ne comprends même pas comment c'est possible.
On se demande. On se demande.
Voilà, il y a que 4 policiers sur l'île, quoi.
C'est clair.
Comment
est-ce que ça j'ai été fascinée quand Dwayne revient.
Dans la saison 13, il y a un vieux personnage qui est revenu, du coup. Voilà, à chaque fois, ça nous, voilà.
Il est très drôle et moi j'aime beaucoup.
Les épisodes sont assez classiques, mais il y a la vibe, vous savez, Antilles et tout comme ça.
Voilà. Mais vraiment
c'est un voyage, quoi, vraiment.
Il y a Hawaii 5-0 aussi.
Alors je suis désolée, Hawaii 5-0, leur casting.
Elle est trop bien.
Le casting est beau à regarder.
Oui.
Encore plus que.
J'ai regardé de A à Z la série depuis que je suis toute petite, je la regarde. Donc écoute, voilà.
Tous les vendredis soirs, je regarde.
Tu m'étonnes.
Les séries policières, c'est génial. Et du coup, NCIS,
c'est trop bien.
C'est quand même le symbole des séries policières.
C'est ça.
Voilà. Bon.
Mais on passe à autre chose. Alors, il y a un des films les plus attendus de cet été qui est jamais plus de Colin Hoover. Enfin, le plus attendu. Bon. Et qui a la bande-annonce qui vient de sortir. Et elle a déjà été vue plus de 222 millions de fois. Et le film sort le 14 août. Alors même s'il y a un moment il parlait qu'il ne voulait plus le faire, que ça devait être annulé, finalement ça a repris le tournage. Et donc ça raconte l'histoire de Lily Bloom, qui surmonte une enfance traumatisante pour se lancer dans une nouvelle vie à Boston et poursuivre son rêve de toujours d'ouvrir sa propre boutique. Et elle rencontre un charmant neurochirurgien, Ryle Kincaid, et il naît de cela une connexion intense, mais alors que les deux sont profondément amoureux, Lily commence à entrevoir des aspects de Kyle qui lui rappellent la relation de ses parents. Et lorsqu'Atlas Corrigan, le premier amour de Lily, réapparaît soudainement dans sa vie, sa relation avec Ryle est bouleversée et Lily réalise qu'elle doit apprendre à s'appuyer sur sa propre force et faire un choix impossible pour son avenir. Alors, oui, ce Colleen Hoover, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est... Elle est très connue, mais à la fois très détestée.
Oui, oui.
Parce que c'est... Elle est...
Oula, qu'est-ce qu'elle a fait ?
J'ai pas tout suivi, mais tout le monde dit qu'elle a dit pas mal de choses très, très problématiques. Puis même ses livres ont des relations très toxiques.
Ouais.
Donc alors, ça Oula. Devait être annulé. Oui, 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 ouais. Et visiblement, les gens étaient contents que ce soit annulé. Mais les gens sont finalement assez contents que ce soit...
Le public.
Que ce soit ouais. sorti, puisque 222 millions de vues ouais, ou de d'annonces, ouais. c'est quand même...
Beaucoup.
Pas mal du
ouais,
tout.
C'est pas mal.
C'est ouais. beaucoup, ouais, quand même.
Surtout pour un film aussi... contester un petit peu, ouais. on va dire.
Enfin, bah, c'est ça.
C'est ça, ouais.
Ouais. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais... Avec ce nombre de vues, il fallait quand même en parler.
Oui, oui,
c'est sûr.
Déjà, les livres, bon.
Voilà. Ouais. Ça donne pas très envie.
Ouais, moi, ça m'a jamais très...
Moi non plus. Mais après, à chacun de faire son propre avis. Hein, mais
ah voilà. oui, oui. Si vous, quand il ça sortira, savoir, vous irez regarder.
Il faut savoir aussi que l'autrice n'est pas une très bonne personne, voilà.
Ah oui, en fait parce que son fils a été accusé d'agression sexuelle et qu'elle l'a soutenu en fait,
évidemment.
En disant non, c'est faux. Et du coup voilà ce qui paraît visiblement.
Oui mais ses livres...
Oui, oui, il doit y avoir
d'autres
oui,
choses. Oui, ses livres sont assez problématiques.
J'ai fait des recherches.
C'est des relations un petit peu graves qui un peu acceptent le genre de choses, de ce que j'ai compris. Après, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas trop parler, mais voilà.
La définition même des relations toxiques, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ouais. On passe à la prochaine actu ?
Tout à fait. Et ben, figurez-vous qu'il y a un nouveau Seigneur des Anneaux, un film Seigneur des Anneaux qui est en préparation, qui s'appelle The Hunt for Gollum, donc la chasse de Gollum,
oui.
Qui est réalisé par ouais. Andy Serkis, donc, qui était le gars qui jouait Gollum dans la trilogie originale.
Uh-huh.
C'est produit par Peter Jackson, donc le réalisateur des 3 Hobbits et des 3 Seigneurs des Anneaux, et ça mm-hmm. sortira en salle en 2026. Ça suivra l'histoire de Gollum avant la trilogie Seigneur des Anneaux.
D'accord.
Les scénaristes sont Fran Walsh et Philippa Boyens, donc, qui ont écrit les deux autres trilogies Seigneur des Anneaux et Hobbit. Comme j'ai dit, ça sort en 2026. Je n'ai aucune attente, bien évidemment, non. puisque c'est Andy Serkis qui réalise, moi, je pense que Peter Jackson est un très très grand réalisateur, et que c'est pour ça que Seigneur des Anneaux et le Hobbit sont géniaux. Là, il n'est que producteur, et Andy Serkis, il a réalisé, donc, il a réalisé le Livre de la Jungle sur Netflix, qui est nul. Il a réalisé le deuxième Venom, qui est sorti en 2021, qui
pas
est
fou.
Nul.
ça c'est dit.
Voilà.
Moi c'est direct.
Donc après, si vous voulez vérifier, vous pouvez. Hein.
Oui.
Mais c'est juste...
Allez regarder.
Quitte à prendre 2 heures de son temps, ne regardez pas Venom 2.
Voilà. Au pire, prenez 3 heures et regardez
Babylone,
Avatar.
Ouais, voilà.
Ou Avatar ou Babylone. Ouais,
ouais,
voilà.
Ouais, c'est ça.
Vous aurez plus à gagner avec Babylone.
Oui,
voilà.
Oui, oui,
voilà.
Clairement.
Donc, encore une fois, comme pour Matrix ou comme pour Harry Potter, la Warner Bros. Essaie de se faire de l'argent sur leur saga connue
oui.
en faisant des projets qui n'ont aucun sens. Il ne faut pas regarder ces trucs. Mais on sait très bien, moi-même, le premier, je mettrai les pieds, dans la salle.
Ça va enlever
voilà,
le truc.
Le
Seigneur des Anneaux, c'est...
Qui s'intéresse ? Qui s'intéresse ?
Ben, c'est depuis les années 30, quand même, que les livres ont été écrits à un moment.
Ouais,
il faut
grave.
Arrêter de
faut arrêter de recycler.
Il faut arrêter de continuer, quoi.
Il y a d'autres livres. Tolkien, il a écrit plein d'autres livres.
Oui,
Tolkien,
il va se retourner dans sa tombe quand tu as...
Voilà, autant adapter les autres livres.
Laissez-moi.
Laissez-moi tranquille,
laissez
en fait.
Laissez mon œuvre.
Il a fait d'autres choses, mais
oui,
laissez-le voilà. tranquille.
Adapter d'autres livres, alors,
mais
de Tolkien.
Oui.
Je sais pas, faites quelque
ça
chose.
Ça nous a pas suffi. Il suffit le...
Innover.
Dans le troisième film,
après...
la petite partie sur Gollum, on s'en foutait qu'il ait trouvé l'anneau comme
oui,
ça.
Oui, mais au moins, c'était bien raconté, le
oui,
film.
Voilà.
Là,
pourquoi
mais là,
faire un truc basé
mais après,
sur lui.
Ça suffisait pas, le Seigneur des Anneaux. Il a fallu faire 3 Hobbits.
Alors qu'il y a
c'est
un livre.
On fait une nouvelle trilogie.
Alors que
et là, pareil, il y a un film d'animation qui va sortir sur le Seigneur des Anneaux cette année-là. Qui sort en décembre. Allez, encore plus.
Par contre,
il y a eu
parlant...
la série.
Oh. En parlant
série
du Seigneur,
aussi.
Oui, en parlant du Seigneur
vidéo,
des Anneaux, en parlant du Seigneur des Anneaux, la série par contre est très bien faite. La série, je l'ai regardée.
Les avis sont tranchés.
Chacun son avis.
Moi, je trouve qu'elle est très bien faite parce que je pense que l'histoire de la reine est très intéressante. Et je trouve que ça suit un peu bien les premiers films, du coup, Le Seigneur des Anneaux, du coup.
Ah oui, alors, ceci dit, ouais, je n'aime pas beaucoup la série sur... comment ça s'appelle déjà
C'est Les Anneaux du Pouvoir.
Ouais, les Anneaux du Pouvoir.
C'est ça.
Oui. Mais, alors... Le production design, les décors, tout ça, c'est magnifique. Et c'est normal avec le budget, mais c'est magnifique.
C'est magnifique, ça c'est sûr.
Moi, j'ai du mal avec les acteurs. Je trouve qu'ils ne produisent rien.
Après, tout le monde a son avis, mais moi, je trouve que ça suit bien l'histoire.
Oui, oui, c'est ça. Il faut suivre.
Ah oui, après, oui.
Vraiment.
Il faut faire votre propre idée. Parce qu'en vrai, ça passe ou ça casse. Et même moi qui n'aime pas beaucoup, c'est pas je déteste.
J'aime pas beaucoup les suites parce que souvent, ça reprend pas l'histoire, tout ça. Mm-hmm. C'est pour ça que je regarde très rarement des trilogies ou autres, ou des suites. Comme par exemple, comme tu dis, avec l'histoire sur Gollum, je vois pas l'intérêt.
Voilà. Ah oui,
mais voilà, pourquoi faire des suites alors que le premier film laisse le premier film tranquille, il est très bien, et voilà.
La première trilogie, pépite.
Voilà, il y en a très peu. Enfin, moi, des trilogies, j'en ai beaucoup vu avec mes parents ou autres, toute seule. Mais il y en a très rares qui sont bien. Tous les trois.
Ou alors c'est prévu comme une trilogie à la base.
Oui,
c'est
ça. Ouais. Voilà. Oui,
c'est ça. Comme le Seigneur des Anneaux aussi.
C'est ça. C'est
ça. Ça marche.
Oui.
Et du coup, d'ailleurs, la saison 2 de The Rings of Power sort le 29 août. Alors, vous aurez l'été là pour rattraper la saison 1.
Ouais.
Faites votre propre idée, parce que vraiment, ça peut vous intéresser, honnêtement. Ça peut, voilà.
Oui, c'est en fonction de vos goûts. Hein.
Exactement.
Et tout le monde a ses goûts. C'est sûr.
Bien sûr.
La diversité, on aime.
C'est ça.
Alors, dernière actu, et pas des moindres quand même.
Oui.
Puisque les doubleurs français se mobilisent sur les réseaux sociaux pour alerter contre la disparition de leur métier à cause de l'intelligence artificielle, excusez-moi. Alors, le mouvement s'appelle Touche pas à ma VF. Et parmi les doubleurs présents dans le mouvement, on peut notamment citer Brigitte Cordelier, qui a fait Oui Oui et Goku de Dragon Ball. Mmh. Donald Reignoux qui a fait Spider-Man, Dorothée Pousseau, la voix française de Margot Robbie, et Philippe Pétieux qui est le fameux Homer Simpson. Alors il tire la sonnette d'alarme face à l'avènement de l'IA. Ils affirment que, alors je cite, notre métier pourrait complètement disparaître si l'intelligence artificielle nous remplace, ce ne seront plus nos voix. Des voix humaines que vous entendrez dans les films, mais des voix de robots qui auront été générées par le vol de nos voix, sans nos consentements ni traçabilité. Alors on peut voir que vraiment l'IA, c'est au cœur de tous les débats autour de la culture en ce moment. Et il faut quand même mettre en avant ces figures de l'ombre, parce qu'on ne pourrait pas profiter du cinéma étranger en France, et encore moins de l'animation, sans eux. Ou alors ce serait vraiment un public très restreint qui apprécie la version originale sous-titrée pour tout, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà.
Oui, il y en a qui, il faut le dire, ils n'aiment pas les versions sous-titrées.
Mais c'est pas agréable pour tout le monde. Après,
bah, oui.
Ça passe et ça casse.
Ouais,
c'est ça.
Et puis même pour mettre un film en fond ou une série.
Ouais, c'est ça, si tu veux mettre un film en fond en VF, ça passe. Ouais.
Puis même les enfants, ils ont.
Oui tu vas pas directement leur
les
mettre.
Les dessins animés, ils vont pas les regarder.
Et quand on n'a pas l'habitude des sous-titres, c'est très compliqué à suivre.
Ouais. Oui. Mais ça s'inscrit dans une problématique globale du monde du cinéma contre l'IA.
Clairement.
Puisqu'il y a quelques mois, bon, nos auditeurs s'en souviendront puisqu'ils ont écouté tous les podcasts, mais on va rappeler pour Gloria et Margot. Il y avait une grosse grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood tout l'été dernier.
Mais c'était contre. Cœur de ça, c'était...
Voilà, parce que les gros studios ne voulaient pas dire non, on va pas utiliser l'IA. En gros, ils allaient sûrement écrire des scripts avec l'IA.
Oui.
Voilà.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Donc les scénaristes étaient en mode on va perdre notre travail en fait.
Mais ils avaient clairement dit, les studios, quand les scénaristes ont commencé à se mettre en grève, que pour être mieux payés, parce que leur métier est en train de devenir extrêmement précaire. Après, ils ont gagné du coup des droits maintenant, donc ça doit être mieux. Je ne sais pas trop, mais
ils ont signé des accords pour mettre fin à la grève, alors je suppose qu'ils
Ça doit être quand même mieux. Mais ils ont dit clairement, du coup, on va utiliser l'IA pour écrire votre place, et c'est pour ça que les acteurs ont rejoint.
Et donc ça a eu lieu aux États-Unis, mais combien de temps avant que ça arrive en France, ou un truc comme ça, une grosse grève des acteurs, là, ça arrive déjà avec les doubleurs. Forcément, c'est ce qui est impacté en premier. Parce que plutôt entre engager une intelligence artificielle ou un doubleur, ce qui coûte le moins, c'est une intelligence artificielle. il faut pas négliger, c'est vrai, l'art du doublage, parce que c'est tout un art quand même. Il suffit de voir des vidéos de doubleurs, vraiment, ils ont leur propre voix. Ils sont, voilà,
oui, c'est des acteurs.
C'est
des comédiens.
C'est des acteurs. Ils doivent mettre leur voix comme s'ils jouaient dans la scène, en fait.
Mais c'est ça.
Oui, oui.
Il faut savoir retransmettre. Regardez, d'ailleurs,
on ne voit pas l'image, mais on les entend, quoi.
Je regardais d'ailleurs hier une vidéo, en gros, d'un homme qui gère toute la VF de Doctor Who. Ouais, et justement, ouais. On voit, il était en train de raconter toute l'équipe derrière la VF, parce que c'est pas que des acteurs, enfin, c'est pas que des doubleurs. Mais... c'est aussi des gens qui pensent à comment ça peut fonctionner avec les lèvres, ceux qui écrivent les scripts en français. Voilà, c'est toute une idée, c'est toute une organisation.
Il y a énormément de gens derrière.
Oui. Et oui, ça, sans intelligence, ça. Avec l'intelligence artificielle, tout ça, ça disparaît. Tous ces gens, ils sont au chômage.
Il y a beaucoup de
honte,
travail
quoi.
Derrière, donc du
mais
coup,
bien
là,
bien
ça va, ça va démolir un peu tout, quoi.
Pas...
ah oui, c'est pas que le cinéma, oui, oui.
Absolument.
Il y a quelques mois, il y avait eu l'histoire de la chanson, d'une chanson qui avait été reprise avec la voix d'Angèle, alors qu'elle avait rien demandé.
Oui, oui, c'est vrai.
Tout ce qui est la photo, là, les gens, ils trafiquent les photos, des tableaux, des livres qui sont écrits, les couvertures.
C'est ça, ça pose plein de problématiques. Mais là, c'est direct parce que c'est les gens qui seraient au chômage et qui auraient plus d'argent.
Vraiment, ouais,
c'est
ça. Terrible, c'est une catastrophe qui serait arrêtée, du moins pour l'art. Hein, parce qu'autant pour la science, tout ce qui est les médecines et tout ça, c'est à développer. Mais alors pour tout ce qui est l'art, c'est
voilà.
Top.
Bah,
quoi.
Le domaine culturel, il est directement impacté.
Mais bien
ça
sûr.
Ça rase immédiatement un tas de métiers.
Parce qu'il y a plein de gens derrière. Et puis même si vous voulez voir un petit peu, ils ont essayé quand même de les mettre un petit peu en avant. Je trouve McFay et Carlito qui ont fait pas mal de vidéos avec des doubleurs où ils racontent ce qu'ils font. Alors, c'est peut-être pas énorme, mais quand même, je pense que c'est à voir pour découvrir un petit peu ces gens qu'on connaît pas.
Oui, parce que quand on regarde des films en VF, on se rend pas compte, mais c'est vraiment
tout un
travail.
C'est vraiment un boulot de dingue.
Mais juste, vous avez une réplique américaine de 5 secondes, il faut faut déjà la traduire.
Il
faut qu'en français, ça sonne bien,
que
ça fasse 5 secondes, et ça s'aligne avec les lèvres du vrai acteur.
C'est ça, un peu...
C'est un travail hallucinant, quoi. C'est vraiment, voilà.
C'est ça.
Alors que ça vient d'un homme qui n'écoute pas la VF, hein, qui n'est que de la VO, mais qui a du respect.
C'est vrai, moi aussi, j'écoute rarement
c'est
la
ça.
VF.
Mais qui a du respect pour les doubleurs, et c'est tout un art, quoi.
C'est un travail comme l'autre.
Mais ne serait-ce que quand on regarde des dessins animés, je suppose que vous les regardez quand même souvent en français, plutôt.
Oui.
Bon, voilà, quoi, les dessins animés, ce serait rien sans les doubleurs. Enfin, il y aurait quoi? Il y aurait juste les images écrites en dessous, non.
Voilà.
C'est un travail énorme, donc voilà. Et il faut qu'ils soient payés... valoriser à leur juste valeur.
Bah oui,
voilà.
C'est ça.
Bien voilà, c'est tout pour ce mois-ci.
Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'être venu.
Merci à vous.
C'était le dernier épisode de cette année.
Et c'est vrai. Il nous reste l'épisode encore sur l'été prochain, mais c'est le dernier épisode normal avec des gros guillemets.
Oui.
Ciné Club Actu, donc c'était nos derniers invités également. Ben voilà, c'est tout.
Vous pouvez réécouter ce podcast sur SoundCloud et le site internet de Radio Campus Pau. Restez connectés sur les réseaux sociaux de Radio Campus Pau pour tout savoir de la sortie des podcasts et de la programmation de la radio. À l'année prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Bye.